basket est sur RTL Équipe. Carrément basket, Frédéric Schwecker.
Bonjour à tous, 11h30, 12h30, Carrément basket, toute l'actualité de la balle orange qui va être décortiquée pendant une heure. Il y en a encore une fois des choses à dire, l'actualité chaude, l'actualité bouillante. Elle était cette nuit du côté des États-Unis avec le début de la finale NBA et Miami qui a remporté la première manche face à Dallas. Score final 92 à 84 à l'American Airlines Arena en Floride. Et la grosse information également qui est arrivée ce matin après ce premier match, c'est la blessure de Dirk Nowitzki, blessé, déchiré d'un ligament de la main gauche. Il va devoir porter une protection apparemment. Il pourrait jouer dès vendredi pour le match 2. Nous reviendrons bien évidemment durant toute la première demi-heure sur cette première rencontre de cette finale NBA et nous entendrons Yann Mahenmi, le français, l'un des deux français des Dallas Mavericks, mais également LeBron James et Dwayne Wade. Également au programme de ce Carrément Basket dans la deuxième demi-heure, on parlera de Pro A avec, on connaît déjà enfin le nom du premier qualifié pour la finale. Ce sera Cholet qui va pouvoir défendre son titre, qui va aller en finale pour la deuxième année consécutive. Qui pour affronter Cholet à Bercy? Ce sera soit Nancy, soit l'ASVEL. Peut-être le verdict ce soir avec le match retour. On rappelle que Nancy avait remporté la première manche à domicile. La deuxième manche se jouera donc ce soir à l'Astrobal. On parlera également de l'équipe de France féminine qui prépare son Euro 2011. Ça commencera le 18 juin prochain en Pologne. Nous serons avec Florence Lepron, l'arrière de Tarbes, la championne d'Europe en 2009, l'une des championnes d'Europe, qui nous expliquera en tout cas comment se passe cette préparation pour cet Euro qui aura une grande importance en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques. Et en fin d'émission, nous recevrons Sylvain Fian qui s'occupe du tournoi Shigat Games, c'est un tournoi de street 100% réservé aux filles. Il nous expliquera ça en fin d'émission.
Pendant une heure, avec Frédéric Schwecker et ses invités, balayez l'actualité du basket sur RTL L'Équipe.
Et avec nous ce matin dans Carrément Basket pour décortiquer, je vous le disais, toute l'actualité de la balle orange, Xavier Colombani de l'équipe.fr. Salut Xavier.
Salut Fred.
Avec des tout petits yeux. Je sens qu'on est resté un petit peu tous éveillés cette nuit. Voilà. Ce n'est que le premier match, on va dire ça comme ça. Même si c'est vrai que c'est un petit peu tard, 3h du matin en française pour suivre cette finale NBA entre Miami et Dallas. Lui aussi, il doit avoir de tout petits yeux. Et en plus, c'est dur. Il doit supporter le soleil de Roland-Garros. Il est en direct de la porte d'Auteuil. Le représentant de l'équipe, c'est Jean-Luc Thomas. Salut Jean-Luc.
Bonjour, bonjour les amis.
Ça va pas trop dur d'enchaîner la finale NBA plus au tennis?
Pas du tout, pas du tout. C'est du pur bonheur.
j'imagine. Là, en tout cas, il y a de beaux spectacles, que ce soit la nuit ou le jour. Et on rappelle bien évidemment que Roland-Garros, vous pouvez le suivre dans son intégralité tous les jours sur le www.rtl-l'équipe.fr. Et je vous rappelle également que vous pouvez intervenir en direct durant l'émission via notre page Facebook Carrément Basket. Vous laissez vos petits messages, vos questions concernant la NBA, la Pro A, l'équipe de France, et nous y répondrons durant l'émission.
Carrément Basket,
Carrément Basket,
la NBA.
On va commencer, messieurs, donc avec la NBA, vous l'avez entendu, et cette première manche de la finale qui s'est déroulée cette nuit et la victoire du Heat de Miami face à Dallas 92 à 84. La grosse information qui est tombée ce matin, c'est Dirk Nowitzki qui l'a dit lui-même en conférence de presse. Il souffre de la main gauche, l'Allemand, la star, le go-to-guy de cette équipe des Mavericks, déchiré d'un ligament de la main gauche. C'est la grosse information au terme de ce premier match, Xavier. Et c'est surtout une information qui va avoir une incidence considérable sur la suite de la série.
Écoutez, LeBron James, pas tant que ça, dans le sens où il précise que c'est le majeur de la main gauche. Et puisque lui-même s'est intéressé tout de suite au cas, il savait quelle importance ça pouvait avoir. Le majeur de la main gauche, Dirk Nowitzki tire de la main droite, donc c'est la main qui glisse, donc ça ne devrait pas trop gêner. N'empêche qu'il va jouer avec une attelle, ça risque d'être quand même assez problématique. Ça peut être effectivement le gros tournant. Une précision tout de suite, on ne l'a pas vu.
On n'a pas vu le choc avec Chris Bosh. Apparemment, on a un choc avec Chris Bosh, mais c'est qu'on n'a pas senti la différence.
Pense
dans
pas, toi, Fred, que tu as vu pendant le match, voilà, une différence. Donc, résultat, s'il a pu jouer avec, alors évidemment, c'est ce que c'est, il devait être chaud, ça devait pas être si problématique que ça.
Jean-Luc, vous qui avez fait un beau papier sur Dirk Nowitzki sur la page de l'équipe.fr, est-ce que c'est une information, une blessure qui peut changer le visage de cette série? On sait par exemple que Dwayne Wade joue avec une blessure à l'épaule, ça n'a pas l'air non plus de trop le déranger.
Kobe Bryant a souvent joué avec des blessures au
genou. Voilà, il avait sa déchirure du ligament du petit doigt, il avait sa blessure au genou. Est-ce que Dirk Nowitzki doit modifier son jeu? Est-ce que Dallas, du coup, presque doit baisser les bras?
Baisser les bras, certainement pas. Non, je crois que pour ce qui est du shoot et purement du shoot, c'est peut-être pas si terrible que ça. En effet, c'est pas la main qui pousse la balle, c'est celle qui guide. C'est pas très agréable de jouer avec une attelle, bien entendu. Mais enfin, bon, c'est peut-être pas absolument effrayant. En revanche, il faut quand même pas oublier que Nowitzki est quand même quelqu'un qui vient jouer près du cercle aussi. Même si on le voit tirer extérieur, c'est quand même un joueur qui, c'est quand même un joueur de raquette. Et que être blessé et aller se châtaigner avec les intérieurs adverses dans la raquette quand on a une main douloureuse, c'est pas terrible quand même, quoi.
Ouais, et puis Jean-Luc, faut quand même se souvenir que Dirk Nowitzki n'a pas toujours été excellent dans les phases finales, et que là, cette année, il avait clairement passé un cap, il était arrivé parmi les plus grands, et donc il s'était mis dans une routine. On sait comment fonctionnent les plus grands joueurs, ils ont besoin de se mettre dans un état mental. Est-ce que cette appréhension qu'il risque d'avoir ne peut pas être le grain de sable qui grippe toute sa mécanique?
Je sais pas, je suis pas sûr parce que j'ai l'impression quand même, en effet, c'est qu'il a pris une autre dimension. Et je suis pas du tout persuadé que ça suffise à le mettre par terre. Par contre, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, beaucoup plus, je dirais, c'est lié à, d'ailleurs, à quelque chose que vous avez écrit, Xavier, sur l'équipe.fr. C'est par rapport au format de la finale. Je pense que Dallas s'était mis une très très grosse pression sur ce match-là, hein, parce que le 2-3-2 n'est pas du tout favorable, en effet, à l'équipe. Qui va devoir assumer trois matchs à la maison si elle arrive en état de faiblesse. Et comme Dallas a vécu avec la réputation de l'équipe qui gagne à l'extérieur, qui peut forger son destin à l'extérieur, moi je pense qu'ils avaient vraiment envie de faire un hold-up d'entrée. C'est un peu comme ça que j'ai tendance à analyser l'effroyable pourcentage de shoot auquel ils ont été confrontés.
On va y revenir.
Carlisle en a parlé tout de suite après le match en disant, c'est Sean Marion aussi, c'est pas nous, ça nous ressemble pas, on a eu des tirs ouverts, on les a pas mis. Ça, c'est la méthode Quay, c'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là.
On les mettra la prochaine fois.
Mais je pense que émotionnellement, ça a dû peser davantage. Ce match pesait, à mon avis, beaucoup plus sur Dallas que sur Miami.
C'était quand même prévisible à 99%. Je pense notamment à Jason Terry, l'histoire du tatouage, toutes ces choses-là. On sentait qu'ils en faisaient quasiment trop et que ça, ils allaient le payer. Alors, ils allaient le payer longtemps, on savait pas. Qu'au début de match, les deux équipes soient catastrophiques au tir, certes, mais ça a continué pendant tout le match.
On rappelle les statistiques du premier quart-temps, 29% de réussite au tir en cumulé pour les deux équipes, et un score à la fin des 12 premières minutes de 17-16 en faveur du 8 de Miami. Donc c'est vrai qu'on a senti en tout cas que les deux équipes, c'était pas mis une pression. Les deux équipes ont une pression. Dallas veut prendre sa revanche sur 2006 et Miami veut assumer son statut qu'il essaie d'assumer depuis le début de la saison.
Il me semble avoir lu, je crois, sur ESPN ce matin que c'était le plus faible score sur un premier carton en finale depuis qu'on joue avec l'horloge.
C'est pas impossible, effectivement. C'est que 17-16, c'est presque un score d'Euroleague. Hein.
Enfin, en tout cas, c'est un score ridiculement bas. Quoi,
un clairement. Seul joueur a dépassé les 50% de réussite hier soir.
Chris Bosh,
non, LeBron James.
Ouais. Bon, oui.
C'est peut-être pas le, c'est peut-être 9 pas sur 16 un hasard.
Tir.
Hein.
9 sur 16 de tir pour LeBron James. En tout cas, ce qui est sûr, messieurs, c'est que on s'y attendait. En tout cas, on a eu droit à une véritable opposition de style entre ces deux équipes. D'un côté, le jeu de Miami, tout pour l'attaque. Dès qu'on peut courir, on court. Dès qu'on peut mettre des points contre-attaque, on le fait. Et en face, une équipe de Dallas, Xavier, qui a posé le jeu avec Jason Kidd à la baguette et des tirs à 3 points qui, notamment dans le deuxième carton, ont commencé à pleuvoir en tous les sens.
Ouais, c'était très virtuel, hein, le jeu vif de Dallas. On l'a très peu vu. Ils ont été dominés au rebond. Le repli défensif de Miami a été très fort. La pression athlétique qu'ils leur mettent dessus était très compliquée. Ce qui fait que leur jeu, ils n'ont jamais vraiment pu le jouer. On a parlé de la pression, qui pour moi est le premier facteur qui explique ce qui a pu se passer au niveau des shoots. Je pense aussi qu'ils ont grippé la belle mécanique, le jeu à deux, les capacités à renverser. Il y a des choses magnifiques qu'avait fait Dallas depuis le début des playoffs. Avec des jeux à 4-5 passes, très rapides, sans rebond, que là on n'a pas vu du tout. Je pense que ça joue aussi énormément.
Ah ben,
Jean-Luc,
Ah ben moi, je pense que Miami a fait un match défensivement remarquable. Remarquable, sans faire de fixation outre mesure justement sur Nowitzki. Je trouve qu'ils ont extrêmement bien contrôlé Nowitzki, c'est-à-dire il y a eu de la prise à deux, mais pas trop. Il y a eu de la rotation sur lui. Ils n'ont pas été obsédés par Nowitzki. Ils ont vraiment tout très bien contrôlé, je
Ils
trouve.
peuvent se permettre de ne pas être obnubilés par Nowitzki parce que Haslem, qui a d'ailleurs un jus et un moteur qui
Ouais.
m'étonnent pour un joueur revenu aussi tard, alors bien sûr il a
On rappelle qu'il est
emmagasiné
revenu lors du deuxième match de la finale de conférence face à Chicago.
les. Ouais, et là, il tient 30 minutes très fort en défense sur Nowitzki. Il est dans son
C'est une
short.
clé. C'est une clé, absolument.
Ce qui fait qu'on voit LeBron James très souvent flotter à côté de son défenseur pour venir en aide, mais il est très peu venu. Il n'a pas eu à venir beaucoup parce que Dirk n'arrivait pas à faire ce qu'il est le meilleur en NBA à faire, même devant Bryant pour moi, c'est-à-dire à se dégager, à donner un coup comme ça et se dégager, prendre 1 ou 2 mètres de distance et shooter en arrière. Il n'a pas pu le faire, ce qui fait qu'il est allé au cercle. Et au cercle, on a vu que c'était catastrophique.
On va écouter l'un des Français de cette équipe de Dallas qui a rencontré Romain Brunet, hein, qui est l'une de nos voix d'habituel, donc carrément basket, et qui est également là-bas pour basketusa.com. Il a rencontré donc Yann Maïmi, et justement, écoutez le Français sur le bilan qui tire un petit peu de cette première rencontre de cette finale 2011 remportée par le Heat de Miami.
Malgré le fait qu'on ait perdu ce match ce soir, on peut voir quand même que c'est un duel à force égale. On a fait quelques erreurs en fin de match, des balles perdues, raté des shoots ouverts. Donc je pense qu'au niveau de la défense, ce qu'on fait, c'est bien. Et en attaque, on a manqué quelques shoots. Normalement, on met. Et je pense que bon, si on met ces 2-3 shoots, le match est un peu plus serré à la fin. C'est une série, c'est au meilleur de 7 matchs. Donc, c'est pas non plus la peine dans les victoires d'être super heureux. Et c'est pas la peine non plus dans les défaites d'être super bas, baisser la tête. C'est qu'un match. Bon. On a un autre match dans 2 jours, donc voilà, c'est pas la fin du monde. On a fait quelques erreurs, demain on a entraînement. On va corriger certaines erreurs qu'on a fait et regarder la vidéo du match. Et voilà, on va rebondir.
Carrément basket.
Carrément basket.
Oh, super. La NBA.
Voilà, ça c'était l'avis de Yann Maïmi, notre Français des Dallas Mavericks, l'un de nos deux Français, donc effectivement avec Rodrigue Beaubois. Avant de vous donner la parole, messieurs, pour vous avoir un petit peu votre avis, vous, sur votre regard par rapport à cette première rencontre, on va écouter un autre son de cloche, le son d'un victorieux, bien évidemment. C'est celui de Dwayne Wade, qui a réagi également en conférence de presse, toujours des propos recueillis par Romain Brunet. Alors, le son de Dwayne Wade n'est pas forcément bon parce que c'est un son de conférence de presse, mais écoutez, en tout cas, le discours est certain. C'est une rencontre pleine réussie par l'équipe de Miami.
Nous avons pu attaquer le quatrième quart-temps avec 4 points d'avance après que LeBron a réussi son 3 points difficile à la fin du troisième. Ça nous a donné de l'élan, notamment la dernière période. Nous nous sommes dit qu'il fallait gagner ce match en défense car Dallas est une très bonne équipe en attaque. Je trouve qu'on a fait du bon boulot. De ce point de vue, ils nous ont permis de prendre des bons tirs de l'autre côté du terrain. C'est clair que j'ai réussi quelques gros tirs. Nous avons tous fait des actions en fin de match qui nous ont aidés à gagner cette rencontre. Je travaille dur sur mon tir. J'ai beaucoup de confiance en moi et ce soir j'ai réussi à en mettre quelques-uns, c'est tout. Simple confiance en soi. Les gars m'ont passé la balle et m'ont mis dans de bonnes situations. J'ai juste essayé de faire ce qu'il fallait pour mon équipe.
Ouais, voilà, Dwayne Wade, l'arrière du Heat de Miami, qui termine cette rencontre avec 22 points et 10 rebonds à 9 sur 19 au tir. LeBron James, 24 points, 9 rebonds, 9 sur 16 au tir. Messieurs, est-ce que ça a été le vrai duo James-Wade qu'on a vu durant toute la saison? À eux deux, ils compilent 46 points, en saison, c'est 52 points. Est-ce que c'est le duo qui a vraiment pesé sur cette rencontre, et notamment, effectivement, comme le disait Dwayne Wade, ce panier à 3 points réussi par LeBron James, Jean-Luc?
Ah ben, je pense que ça a été le duo et même le trio parce que Bosch fait un match qui est
C'est lui qui tient l'équipe en première
tout à
mi-temps.
Fait respectable aussi. Donc il y a eu un partage des responsabilités au moment clé du match entre Wade et LeBron qui a été absolument remarquable à mon avis. Ils ont rentré en effet les gros shoots au bon moment pour tenir et faire basculer le match. Et puis à côté de ça, à l'inverse, on a beaucoup parlé de Nowitzki, bien entendu, et on va continuer à parler de lui, mais ce qui est la catastrophe tout de même pour Dallas, c'est que son banc a totalement disparu. On avait vu des papiers partout ces derniers temps sur JJ Barea, mais hier, il était aux abonnés absents, par exemple. Je pense qu'il y a la combinaison des deux facteurs, hein. Il y a Miami qui a répondu avec une extrême cohérence à ce premier défi et Dallas qui est vraiment parti en brioche. Quoi.
Deuxième.
Aucun point des remplaçants de Dallas dans deuxième mi-temps. C'est-à-dire que c'est au-delà du fait d'avoir un bon banc ou un banc moyen. C'est juste la catastrophe absolue et quelque chose d'assez rarissime. Or, le problème, c'est que le banc va être obligé de faire la différence parce que c'est vrai que Miami, en dehors du trio, si on parle offensivement, défensivement, tout le monde s'y met. Mais offensivement, il n'y a rien. Enfin, là, moi, j'ai vu des belles choses parfois en play-off de la part de James Jones, même de Mario Chalmers, par exemple, qui pouvait, sur certaines actions de vivacité, être très fort.
Chalmers a mis des paniers à 3 points importants en début de match pour permettre à Miami de rester au contact de Dallas, quand même.
On est tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même extrêmement rare. Enfin, c'est très impressionnant. Je veux dire, si on prend toutes les actions qui permettent de gagner le match, c'est-à-dire les actions à partir de, 5 minutes, de la 44e minute, puisqu'à ce moment-là, les deux équipes sont égalité, c'est là que ça va se jouer, la balle ne passe exclusivement contre les mains de Bosch, James et Wade. C'était prévisible. Ils ont été embauchés pour ça. Ça tombe bien. Le problème, c'est qu'en face, Dallas, n'ayant pas pareil un trio dominant, est obligé de jouer sur sa palette de possibilités. À partir du moment où il commence à avoir 2-3 joueurs qui dévissent, on a tout simplement une excellente équipe face à une équipe moyenne, ce qu'on n'avait jamais vu de Dallas depuis le début des playoffs.
Alors, un joueur qui est un petit peu sorti du lot aux côtés de Dirk Nowitzki, c'est quand même Sean Marion qui a fait plutôt un bon match, 16 points, 10 rebonds pour l'ancien joueur de Phoenix et de Miami notamment. Mais c'est vrai qu'il a dû se sentir un petit peu seul, l'Allemand, en deuxième mi-temps, Jean-Luc.
Bah oui, évidemment. Évidemment, parce que il y avait aucune aide à part Marion, et Marion en plus il va être aussi très sollicité en défense sur LeBron James. Donc voilà, c'est l'équation ne pouvait pas être résolue hier parce que Stojakovic aux abonnés absents. Voilà quoi. Il y a eu Terry qui
c'est
a
la faille des
un
shooters.
Petit peu, mais
Jean-Luc, on se dirige. Évidemment, on sait que entre un premier match, surtout quand une équipe a très mal joué au premier match, elle a tendance à se ressaisir au second. Mais c'est vrai qu'on se dirige grandement vers une sorte de 2-0 avec.
Parce que Miami n'a pas fait non plus un match extraordinaire.
Ça leur pend au nez, clairement.
Mais ce serait énorme Dallas mené par Miami après avoir joué deux premiers matchs à l'extérieur serait donc exactement l'inverse de 2006.
C'est ça.
Donc, je ne sais pas si ça peut leur servir de source de motivation ou au contraire d'énormes peurs. On ne sait pas du tout.
On va d'ailleurs écouter une autre partie de l'interview de Yann Mahenni, toujours au micro de Romain Brunet, justement sur l'impact du duo LeBron James-Dwayne Wade durant cette première manche. On le rappelle, remportée par le Heat de Miami face à Dallas 92-84.
C'est vrai que LeBron James et Dwayne Wade ont mis beaucoup de shoots extérieurs. Donc on préfère ça, hein. on préfère LeBron qui met des 3 points et qui prend des shoots à 2 points que LeBron à l'arceau et qui met des dunks et compagnie. Quoi. LeBron était quand même un facteur assez important en première mi-temps, c'est comme ça. Et c'est vrai que Dwayne Wade et LeBron ont fait une grosse partie. Mais bon, comme je le disais, il n'y a pas feu au lac. Hein.
Oui, il n'y a pas le feu au lac pour l'instant du côté de Dallas. Même si vous le disiez, messieurs, on semble de plus en plus se diriger quand même vers un 2-0 si en tout cas Dallas ne retrouve pas son jeu qui a fait sa force, notamment durant les playoffs. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment, Xavier, que, si on le disait, Dallas n'a pas fait un grand match. Miami non plus n'a pas fait un grand match hier soir. De hors côté également, il y avait une adresse qui était en panne. Il y avait des joueurs qui, certes, ont marqué au bon moment. Il en parlait, Dwayne Wade qui a marqué dans le dernier carton où on retrouvait le grand Dwayne Wade avec ses shoots extérieurs, etc., etc. Mais il n'y a pas eu non plus un Miami dominateur et impérial comme on a pu le sentir, par exemple, contre Chicago.
Ouais, mais c'était dans leur tactique, je pense, principalement. Enfin, évidemment, rater un shoot n'est jamais dans la tactique, on est d'accord. Mais il était dans leur tactique de jouer lentement et justement de ne donner aucun rythme et de faire la tortue en défense, de tout concentrer sur le rebond. Tout concentrer sur le rebond, ça nécessite aussi un moment de soit d'aller au rebond offensif, ce qui change un peu la manière de faire, soit de revenir très très vite en défense. Donc d'une certaine manière, ça les arrange. Hein. Ça les arrange. N'oublions pas que Dallas c'était la deuxième attaque depuis le début des playoffs. C'est Sean Marion qui a résumé ça en disant on a pris 67 tirs, on ne pourra pas gagner beaucoup de matchs si on prend 67 tirs. Il faut oublier que c'est 9 tirs de moins que ce qu'ils prennent d'habitude. Donc Miami dire qu'ils n'ont pas fait un bon match uniquement parce qu'ils n'ont pas rentré les shoots, ce serait inexact.
Et surtout, Jean-Luc, Dallas domine au rebond, mais surtout domine au rebond offensif. Hein. On a vu notamment effectivement un Chris Bosh ou un Udonis Haslem se jeter comme des beaux diables à la bataille pour récupérer ces ballons-là. Hein.
Oui, et puis il me semble que le dénommé Dwayne Wade, il prend oui. aussi lui-même 10 rebonds.
C'est ça.
Mais c'est ce que disait Xavier. En effet, Miami a tout à fait intérêt à jouer ce genre de match à ce rythme-là, avec cette volonté de contrôler les cercles. Souvenez-vous, on a beaucoup glosé en début de saison sur la faiblesse supposée de Miami à l'intérieur. Sauf qu'à ce moment de la saison dont nous parlons, c'est-à-dire la finale, ils ont quand même un trident qui est extrêmement athlétique, même si c'est pas un trident de pur intérieur, et ils ont réussi à hausser suffisamment le niveau de leur jeu intérieur avec Aslim. Alors est-ce que lui, avec son retour récent, ne risque pas de vivre un contre-coup et de s'éteindre dans la finale? Ça, c'est toujours le risque. Mais enfin, en attendant, dans ce qu'ils sont capables de montrer, Dallas a beaucoup de soucis à se faire pour accéder au cercle.
Eric Spoelstra et Eric Xavier n'a pas peur de faire des fois du small ball presque, hein, en mettant Chris Bosh et Udonis Haslem à l'intérieur, en se privant d'un vrai pivot comme peut l'être Joel Anthony. Si Jonas Silgoska, c'était même pas Anthony pour jouer hier.
Enfin, il y a small ball et small ball.
Oui, ouais, pas... ça part non plus.
Oui, c'est très relatif.
Ouais,
c'est pas celui de l'Asvel. Enfin, ce small ball-là, il se fait avec un LeBron James, qui est un ailier arrière-meneur qui fait 120 kilos.
Voilà. C'est aussi lourd que Karl Malone, on rappelle.
Moi, je me souviens, j'avais regardé cette stat-là, LeBron James était plus lourd que plus de la majorité des pivots de NBA. Il faut bien voir qu'un Tyson Chandler fait 106 kilos, l'autre en fait 10 de plus. Donc, en plus, on a un Dwayne Wade qui passe son temps au-dessus du cercle. Enfin, je veux dire, il vit là-dessus. S'il pouvait poser les deux pieds sur l'avant du cercle, il le ferait. Donc, effectivement, cette différence au rebond, elle est pas, ou cette différence dans le jeu intérieur, elle n'est pas forcément énorme.
Moi, je vous avoue que à l'approche des playoffs, j'avais tendance à penser que la bonne articulation pour Miami était que LeBron James puisse jouer plus près du cercle pour laisser plus d'espace de créativité entre autres choses à Wade.
Mais c'est ce qu'on avait dit déjà lors de la finale 2007. Face à San Antonio, on disait que normalement LeBron James devrait jouer quasiment en post-up à chaque fois en bas, quoi.
Oui, mais sauf que là, ce qui fonctionne bien, c'est qu'il soit en effet en position quasiment de point forward, quoi.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est bon? Je pense que Dallas va faire des ajustements, qu'eux vont être confrontés à la nécessité de proposer autre chose à un moment dans la série. C'est ce qui va rendre les choses passionnantes. Mais pour l'instant, ils dominent la situation sans avoir à recourir à cette formule-là, à demander à James de descendre dans le poste.
Xavier ?
Ouais, par rapport à cette formule... Ouais. En gros, non, mais c'est
il n'est pas d'accord, Xavier.
Non, je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste, je vois pas ce que je peux rajouter. Là, j'avoue mon truc, c'est-à-dire que le jeu de Miami est un des plus difficiles à décortiquer pour nous, parce qu'elle est basée sur des capacités athlétiques, techniques et mentales phénoménales de trois joueurs, et notamment de deux joueurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner l'impression que s'ils vont jouer avec les deux proprios, allez, on fout Pat Riley et Spoelstra sur le terrain avec les trois, ça va quand même marcher. J'exagère, mais c'est quasiment ça. Ce qui veut dire que la lecture du jeu, elle est très compliquée.
Et puis Pat Riley, c'était quand même un bon intérieur à cette époque à Kentucky. Faut pas déconner tout de même.
Il avait dit la Gomina ou pas à l'époque?
Non, je crois pas.
Non.
De mémoire sur les photos, non, je me souviens pas de la
Gomina. Elle arrive avec l'âge.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est mental. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui. Et là, je commence vraiment à se projeter dans quelque chose qui est beaucoup plus loin, qui est dimanche ou mardi prochain. C'est peut-être que Miami ne se sente pas vainqueur trop tôt. Parce que là, pour l'instant, ils sont totalement dans leur discours, focus sur le deuxième match. Ils n'ont rien gagné. En plus, ils l'ont vu eux-mêmes, ils n'ont pas forcément hyper bien joué. Mais il va falloir qu'ils restent très concentrés parce que. Voilà, ça fait. Ils sont sous pression depuis longtemps. S'ils commencent à mener 2-0 et on va sortir des statistiques de 90% de possibilités de victoire par rapport au passé, c'est là qu'ils peuvent se déconcentrer. Et encore, c'est pas leur genre.
Alors, on va justement parler de cet avantage du terrain qui attend encore l'équipe de Miami. Prochain match, on l'a dit, ce sera vendredi matin en France, 3h du matin pour le deuxième match, cette finale. Écoutez, Yann Mahimi qui parle justement de l'apport du public, l'apport qui a permis de temps en temps à l'équipe de Miami, notamment à LeBron James ou Dwayne Wade, de se sublimer avec le soutien de toute la Floride.
Plus suite à un moment, troisième carton, hein, et ils reviennent. C'est comme ça aussi, quand tu joues à domicile aussi, tu mets 2-3 shoots, t'es porté par ton public. Donc c'est ça. Et puis aussi le basket, c'est un peu un jeu de run. Hein, tu sais, des fois, tu montes à plus 10, après tu descends à moins 5.
Voilà, Yann Mahimi, donc l'apport du public, vous l'avez senti hier, messieurs, Jean-Luc, Xavier, sur cette première manche de la finale. Vous avez senti une American Airlines Arena un petit peu bouillante.
Bah écoutez, très honnêtement, devant la télé, on a quand même... Oui, ça a l'air très vivant, ça a l'air... C'est une équipe que son public a envie de voir réussir. De là à dire qu'il y avait une frénésie, une pression type Boston Garden, c'est peut-être exagéré un peu, je sais pas, mais j'avoue que...
Surtout que c'est un peu difficile...
Sans être dans la salle, c'est quand même vraiment difficile à apprécier.
Ouais, surtout que c'est un match défensif, ça encourage pas le public à monter en pression, il n'y a pas de série.
Ouais,
donc
absolument.
Voilà, donc c'est un peu difficile.
Messieurs, les clés pour le match 2 et notamment pour l'équipe de Dallas pour ne pas se retrouver menée 2-0. Il faut quoi ? Il faut retrouver de l'adresse. Ça, après, c'est assez fluctuant, hein, l'adresse notamment en longue distance. Est-ce que certains joueurs doivent un peu plus donner ? On pense notamment à Jason Terry qui s'était éteint lors de la deuxième mi-temps.
Moi, je voulais juste répondre à ça. Pas forcément de l'adresse, ça veut rien dire retrouver de l'adresse. On va pas en acheter au supermarché. Par contre,
ah bon
de l'espace.
Alors moi, j'ai pris un 100% en lancer franc il y a deux jours. Je peux vous dire qu'il était pas mal. Bon, il était un peu en promo, mais il était pas mal.
Mais de l'espace, de l'espace. Moi, j'ai trouvé que le jeu à deux avait été complètement annihilé, et on sait que c'est la base pour Dallas. Et surtout que la circulation de balles était relativement réduite, et ça dessus, ça les tuera.
À l'inverse de Miami, qui lui a trouvé beaucoup, a su trouver un très bon spacing. Mais Dallas, oui, bien sûr, ils ont besoin de retrouver de l'espace et aussi donc du rythme et du mouvement autour de la balle. Parce que quand le bond disparaît à ce point-là, quand Nowitzki est à ce point-là esselé, il a beau être très fort, le jeu se fige et il ne peut plus rien se passer.
Et d'une certaine manière, le fait que Nowitzki soit un petit peu blessé, ça changera pas grand chose dans les têtes et dans le jeu de Dallas. Ils en ont trop besoin. Mais ça peut obliger les autres joueurs à se dire, si jamais lui se retrouve un peu diminué, chacun se dise, je vais devoir faire plus. Mmh. Ce qui est toujours risqué, parce que ça veut dire que parfois des joueurs peuvent pas tirer en pétard complet, mais qui peut aussi responsabiliser quelques joueurs. La deuxième chose, c'est que Jean-Luc rappelait donc cette statistique à propos des matchs en 2-3-2. Il y a, sur les 26 années où il y a eu ce système, 6 fois l'équipe qui n'avait pas l'avantage du terrain a remporté le titre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 6 fois, c'est 6 méthodes différentes. C'est-à-dire, ça n'a jamais été l'équipe qui avait des avantages du terrain a gagné et le match 2, et puis après le match 3, et puis le match 4. C'était toujours un peu différent. Ça a toujours été 1, 3, 5, 7 ou 6. Et donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont devoir se créer leur propre histoire. Là, ils sont en face de leur destin. Je veux dire, la plupart vont arrêter dans les 3, 2, 5 ans à venir, vont probablement pas jamais revenir en finale. Ils ont leur destin à écrire, et c'est ça, vraiment, personne ne peut l'écrire à leur place, et personne ne l'a écrit avant eux, surtout.
Est-ce que l'équipe de Dallas n'a pas besoin également d'un facteur X qui se révèle et qui n'a pas été le cas durant cette première manche ?
D'un voire plusieurs. Jusqu'à présent, il avait trouvé un facteur X dans
avec Barrea, par exemple.
Avec Barrea, s'ils ne le retrouvent pas, ils sont morts. Et puis moi, je vous avoue que je m'interroge un peu sur la tenue de Jason Kidd dans la durée. Parce que c'est tellement fort athlétiquement à la périphérie, Miami, que
à un moment, on l'a vu descendre sur Dwayne Wade.
Que ça peut peser quand même. Alors, non pas que ça soit un gringalet, hein, il est costaud, Jason Kidd. Mais quand même, quoi, les 38 balais, là,
S'il n'y a pas d'adaptation, je m'inquiète. S'il n'y a pas d'adaptation, d'abord, on se dirige vers un titre de Miami. Quand on voit, par exemple, que Nowitzki défend la plupart du temps sur Bosch, mais que Bosch ne défend pas sur Nowitzki. Et là, je veux dire, rien que sur la fatigue que ça peut accumuler, voilà, Miami, là-dessus, a un avantage.
En tout cas, on aura tous ces éléments de réponse à partir de ce match 2, donc, qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, avec, pourquoi pas, une équipe de Miami qui mènerait 2-0, ou Dallas qui arrivera à recoller un partout, voir également donc si Dirk Nowitzki arrivera à bien tenir sa place malgré ses déchirures au ligament de la main gauche, un ligament de la main gauche. Il jouera donc avec une attelle, on verra si l'Allemand peut garder son standing qui, pour l'instant, il arrive à tenir depuis le début de ses playoffs et même quasiment durant toute la saison. Voilà, c'est la fin de cette première partie de Carrément Basket. On va fermer la page NBA et juste après les informations, le rappel de l'actualité sportive, on parlera de l'équipe de France féminine avec Florence Lepron, l'arrière de Tarbes, l'équipe de France féminine qui est en train d'en finir avec sa préparation pour l'Euro 2011 qui va se dérouler en Pologne à partir du 18 juin prochain. On parlera également de Pro A avec Cholet qualifié pour la finale, à voir qui de Nancy ou de l'Asvel rejoindra le champion en titre à Bercy.
Jusqu'à 12h30 sur RTL L'Équipe, Carrément Basket, Frédéric Schweiker. RTL L'Équipe.
Il est midi. Et le rappel de l'actualité sportive, c'est avec Audrey Seigneur. Bonjour Audrey.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous. On commence bien évidemment par le tennis. C'est Marion Bartoli qui s'est qualifiée hier pour les demi-finales de Roland-Garros. Pour la première fois de sa carrière, la Française atteint le dernier carré aux dépens de Svetlana Kuznetsova. Une victoire 7-6, 6-4. Gaël Monfils s'est lui incliné contre Roger Federer. 6-4, 6-3, 7-6. Au programme aujourd'hui, Raphaël Nadal contre Robin Söderling. Le Suédois est le seul à avoir battu le numéro 1 mondial à Roland-Garros. C'était il y a 2 ans. Également sur le court Philippe Châtrier-Nila contre Azarenka. Et puis sur le court Suzanne Lenglen, Maria Sharapova sera opposée à Andrea Petkovic et Juan Ignacio Chela à Andy Murray. Du football, l'avenir de Didier Deschamps est en suspens à Marseille. Il a déjà parlé au dirigeant romain de l'AS Roma, en croire Walter Sabatini, le directeur sportif du club, plus que jamais intéressé par sa venue. Du football, toujours, le congrès de la FIFA s'est ouvert hier dans un contexte de tension, de division et de rumeurs de corruption. Et dans ce contexte, la Fédération allemande de football souhaite un réexamen des conditions d'attribution au Qatar de la Coupe du Monde 2022. Pour la Fédération allemande, il y a une somme considérable de suspicions quant à cette attribution. Du rugby, vainqueur de la Currie Cup avec les Sharks en 2008, Frédéric Michalak s'est de nouveau engagé avec la formation sud-africaine de Durban. Toulouse, de son côté, jouera la finale du top 14 samedi. Le stade toulousain, rassuré par la capacité de David Skrela de pouvoir jouer. Il s'est blessé au mollet droit, mais devrait être rétabli à temps. De la NBA, on en parle en ce moment dans Carrément Basket. Miami a battu Dallas à domicile lors du match 1 de la finale du championnat, 92-84. Le Heat n'a fait la différence que dans les 5 dernières minutes de jeu. Dwayne Wade pour Miami finit avec 10 rebonds et 24 points. Et puis en France, Cholet s'est qualifié pour la finale de Pro A grâce à une victoire à Gravelines, 84-80. À suivre ce soir la demi-finale retour entre l'ASVEL et Nancy. Nancy s'était imposé à l'aller. De l'athlétisme, pour sa deuxième course de l'année, Usain Bolt remporte encore une fois en 9 secondes, 91 centièmes pardon, sur le 100 mètres du meeting d'Ostrava. Une deuxième victoire donc dans le même temps. Sur la distance féminine, Veronica Campbell a volé la vedette aux Jamaïcains en signant la meilleure performance mondiale de l'année en 10 secondes 67. Ladji Doucouré, lui, ne s'était plus aligné en compétition en plein air depuis août 2010. Il s'est classé 6e du 110 mètres haies en 13 secondes 52. Et puis un mot de cyclisme, l'audience du tribunal administratif du sport sur le cas Contador se tiendra début août. Plus rien n'empêche donc le coureur espagnol de prendre le départ du Tour de France le 2 juillet prochain.
RTL L'Équipe, la radio sport et info.
Les midi 3 sur RTL L'Équipe, l'heure de retrouver Carrément Basket avec Fred Schweiker.
RTL L'Équipe, Carrément Basket, Frédéric Schweiker.
La deuxième partie de ce Carrément Basket après la page NBA, on va ouvrir la page Pro A. Là aussi, on joue les playoffs, on connaît déjà un qualifié. Pour la grande finale, ce sera à Bercy dans 11 jours. Désormais, Cholet s'est qualifié face à Gravelines. La victoire hier lors du match retour 84-80 du champion de France en titre qui va donc jouer sa troisième finale de son histoire, la deuxième de suite. Face à qui? Eh bien ça on le saura ce soir peut-être. Nancy face à l'ASVEL, le match 2 à l'Astrobal ce soir. Nancy s'était imposé à domicile lors de la première manche, 109-93. Est-ce que tout va se dénouer ce soir? Est-ce qu'il va falloir attendre un match d'appui entre les Cougars et les Villeurbanais? La réponse donc ce soir. On en parle dès le début de cette deuxième demi-heure de Carrément Basket. On parlera également de l'équipe de France féminine qui est en pleine préparation pour les championnats d'Europe, pour le championnat d'Europe qui se déroulera en Pologne et qui débute le 18 juin prochain. Elles viennent de terminer le tournoi dans l'Ain et elles ont encore beaucoup de rencontres à jouer avant le début de cette compétition. Nous recevrons Florence Lepron, l'arrière de l'équipe de Tarbes qui avait fait partie de l'équipe de France féminine championne d'Europe. C'était en 2009. En fin d'émission, nous parlerons du tournoi de streetball Shigat Game qui aura lieu ce week-end avec Sylvain Fian qui est l'organisateur de ce tournoi. Toujours dans ce Carrément Basket pour débattre de l'actualité de la balle orange, Jean-Luc Thomas qui est en direct de Roland-Garros, de la petite balle jaune à la grosse balle orange, il n'y a qu'un pas, et Xavier Colombani de l'équipe.fr.
RTL L'Équipe, Carrément Basket, Pro A, Pro B.
La Pro A, donc, avec la moitié de l'affiche de la finale connue désormais. Cholet va pouvoir défendre son titre à Bercy. L'équipe des Mauges qui s'est qualifiée hier face à Gravelines Dunkerque sur le score de 84 à 80. C'est rare, Xavier, qu'une équipe arrive à enchaîner deux finales consécutives. Nancy l'a réussi à plusieurs reprises, on en parlera tout à l'heure des Nancéens. Là, c'est Cholet qui retourne pour la deuxième année consécutive, troisième finale dans l'histoire de ce club, je le disais. On a l'impression que Cholet, après avoir terminé en tête de la saison régulière, est en train de continuer en tout cas sa progression vers la finale à Bercy. Il commence à connaître maintenant.
C'est rare, c'est très fort, comme souvent ce qui est rare. Non, c'est très très fort. Je suis assez impressionné. Parce qu'on n'est plus habitué en France à voir une équipe se maintenir à ce point-là, au haut du tableau. Et je trouve que ce qu'il y a de plus spectaculaire, moi qui n'étais pas au match hier à Sportica, c'est d'entendre ou de lire, comme on a pu le faire dans l'équipe ce matin, à ce qu'ils ont dit à Liliane Trévisan, d'entendre à quel point les Gravelinois ont accepté cette défaite. Gravelines, moi je les avais mis favoris en début de saison, parce que je trouvais que leur effectif portait beau, et encore, on ne savait même pas que Séné allait rejoindre l'effectif. Séné qui a été hier avec Bocolo le meilleur joueur de Gravelines.
Ah, Bocolo a diminué quand même pour cette demi-finale.
Diminué mais pas dans les stats. Voilà. Mais après c'est toujours pareil, ce ne sont que des chiffres. Ils semblaient du moins être mieux que ce qu'on imaginait. Mais voilà, ils ont accepté leur défaite et ils ont dit on est crevé, on est fatigué. Bon, j'imagine que Cholet qui en plus a joué l'Euroleague devait l'être un petit peu aussi. On a été épuisé par les rotations. Les rotations de Gravelines devaient justement être un de leurs atouts. Quand on a par exemple un joueur comme Issa pour derrière Séné ou Akpomeda, ben c'est fort et voilà, et Cholet va vite, va fort et Cholet surtout n'a pas encore gagné sa place au premier tour de l'Euroleague et doit encore gagner un match, donc effectivement ça maintient une pression d'enfer sur cette équipe qui me semble être coachée par un Herman Kunter qui mérite une statue.
Effectivement, c'est vrai Jean-Luc, on dit souvent qu'une équipe qui joue l'Euroleague durant la saison a du mal après à confirmer en championnat. Là pour le coup Cholet a joué l'Euroleague, a même failli se qualifier pour le top 16 et là désormais a son ticket pour la finale du championnat. Qu'est-ce que c'est un effectif pléthorique pour l'équipe de Cholet ou est-ce que c'est vraiment les talents intrinsèques quand on sait qu'ils ont encore une fois été bien bien dépouillés à l'intersaison?
Est-ce qu'on peut parler d'effectif pléthorique quand dans votre effectif pléthorique de la saison précédente, vous perdez le MVP français, qu'ils vont peut-être retrouver en phase 2 en finale d'ailleurs. Non, moi je pense qu'il y a un très bel effectif, il y a de la rotation, nous sommes d'accord, mais il y a surtout un effectif qui travaille extrêmement bien sous la houlette d'un entraîneur qui a de l'exigence, mais qui je crois, c'est d'abord et surtout responsabiliser ses joueurs d'une façon remarquable. On a parlé de la capacité athlétique de contrôle du rebond de Miami tout à l'heure. On pourrait parler de celle de Cholet aussi. Parce que de ce côté-là, ils ne plaisantent pas, les garçons. Et puis quand je parle de responsabilisation, quand on a affaire à des joueurs de basket qui sont de tellement pur joueur de basket comme voulait Abdalovic hier soir, écoutez, ça, il y a de quoi créer et maintenir un collectif au travers de la saison. Parce que Abdalovic hier soir, pour moi, c'est la clé absolue, quoi. Il a littéralement parlé, passez-moi l'expression, dégonflé Woodside, qui était en souffrance et ils lui ont pas laissé une seconde le temps de se remettre d'aplomb, quoi.
C'est vrai que je parlais de l'effectif pléthorique parce que le banc hier de Cholet a quand même fait du gros boulot.
Oui, mais effectif pléthorique, il faut le mériter, cet effectif pléthorique, d'une certaine manière. Herman a travaillé avec des équipes qui étaient moins riches dans tous les sens du terme.
Pardonnez-moi, on dit qu'il est pléthorique parce que son banc répond, parce qu'il peut utiliser ses rotations.
Il a beaucoup de rotations.
Mais c'est tout de même pas un effectif dont les gens sont référencés en Europe.
Exactement.
C'est 15 minutes de jeu avec Fabien Causer, c'est 15 minutes avec Gradit, c'est Luc Arthur Vébob à 20 minutes. Tout ça, c'est des gens qu'il a fait grandir, qu'il a concerné. Le jeu de Cholet les concerne. Donc, lorsqu'ils vont sur le terrain, ces mecs-là, ils deviennent plus grand que ce qu'il devrait être normalement. Et moi, franchement, je suis très admiratif du travail de Cholet depuis que Herman Kunter l'a pris en main. J'étais ravi de les voir champions de France l'année dernière parce que je trouvais que ce club qui avait tellement bien existé dans l'histoire du basket depuis qu'il était en Pro A, depuis qu'il avait disputé sa première finale en 88 contre Limoges, il n'avait jamais touché la récompense et je trouvais enfin juste et moral quelque part qu'il soit champion de France. Et ce que je trouve encore plus fort, c'est leur capacité à confirmer cette saison.
Eh bien, pour vous raconter un petit peu ma vie, c'est vrai que chez moi, j'ai beaucoup de cartons avec des anciens journaux de l'équipe, des années précédentes. Et la dernière fois, j'ai fait un peu de tri. Et c'est vrai qu'on retrouve d'année après année, il y a toujours un article ou deux dans l'équipe sur la formation à la Scholtez. Il y a toujours cette référence des jeunes qui sortent de cette école Scholtez de Cholet, qui font qu'aujourd'hui, Cholet reste et en tout cas une des places fortes du basket français.
C'est Cholet. Ben oui, celui qui était le plus grand joueur français de tous les temps, avant qu'un certain Tony Parker ne mette les pieds en NBA et après sur la Lune, c'était Antoine Rigaudeau. Le joueur qui a disputé 6 euros, un seul français l'a fait, c'est Jim Bilba. Michael Gelaba, le MVP sortant de Pro A, qui ne joue plus à Cholet, a été formé à Cholet. La liste est quasi infinie. Surtout qu'en plus, formation, ça doit se lire dans les deux sens. C'est-à-dire que, et c'est là, Jean-Luc, j'ai trouvé ce que tu as dit très intéressant, c'est que ils forment des joueurs qui vont chercher très jeunes, mais ils savent aussi aujourd'hui former des joueurs qui arrivent d'ailleurs. Par exemple, le travail qu'ils font avec un Romain Duport est extrêmement intéressant. Romain Duport n'est pas forcément très utile sur le match d'hier, il est très utile sur le match précédent. Et Romain Duport, c'est un joueur, très sincèrement, je ne suis pas sûr que des entraîneurs de bas de tableau l'auraient beaucoup utilisé cette année, ou du moins lui auraient permis d'avoir cette progression qu'il a eue, qui fait que il fait toujours des grosses erreurs de placement défensif, qu'il est capable de lâcher l'arbon face à des joueurs de 30 cm de moins que lui, parce qu'il a les défauts d'un grand, d'un très grand, encore pas fini en termes de formation. Mais voilà, donc ils sont capables de former et de réformer et de reformer. Et moi j'adore ça. Moi je dirais même plus que former, ils sont capables de formater dans le bon sens du terme.
Jean-Luc ?
Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Pour en revenir au travail de Counter, voilà, dans la formation, il n'a pas un Bilba, il n'a pas encore moins un Rigaudeau, il n'a pas un De Colo non plus, mais voilà, avec l'effectif qui était le sien cette année, il a fait grandir son effectif et c'est ce qu'on demande à un coach. Et puis aussi, il a, je trouve, une façon de valoriser ses joueurs et de les piquer en même temps, qui est quand même très 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 habile. Ce qu'il raconte ce matin sur DeMarcus Nelson, quand il dit parfois quelque chose s'égare dans son cerveau, c'est quand même à hurler de rire. Et en même temps, DeMarcus Nelson, il a fait un sacré chantier hier soir. Et voilà, donc ça, il s'égare peut-être le garçon, mais son coach sait aussi le remettre d'aplomb, quoi.
Et toute la beauté donc de Cholet, c'est pour revenir quand même une dernière fois sur Gravelines aussi. Gravelines réalise une très belle saison puisqu'ils ont remporté un titre la semaine des As et en battant une très belle équipe de Châlons. En finale, c'était pas n'importe quoi et ils font demi-finaliste. Et ben malgré ça, moi je resterai quand même sur une toute petite déception par rapport à Gravelines que j'imaginais encore plus haut et qui d'ailleurs on ne sait même pas. Enfin aujourd'hui au niveau des coupes d'Europe, ce qu'ils vont jouer l'année prochaine, c'est-à-dire que ce sera de l'Eurocoupe, on ne sait même pas si c'est encore tout préliminaire ou au premier tour directement. Ça peut se jouer avec Chalon. Ça c'est quand même dommage qu'une équipe qui vient de finir sa saison se pose encore des questions.
On va écouter le président de Cholet qui était l'invité ce matin de Carrément Sport avec Guillaume Laniel, c'est Patrick Chiron bien évidemment, qui revient notamment, vous en parlez messieurs depuis quelques minutes, de ce groupe Choletais, de cette osmose qu'il y a au sein de ce groupe, champion de France, on le rappelle, le tenant du titre, qui pourra défendre son trophée à Bercy dans 11 jours.
On a toujours été devant, un grand bravo aux garçons qui ont maîtrisé la situation et... Il n'y a jamais eu de panique dans cette équipe. La preuve, c'est que Gravelines n'a pas réussi à revenir, enfin à passer devant nous. Donc même si ça a toujours été un faible écart, on a toujours été devant, on est resté maître du jeu et d'aller gagner à Gravelines, c'est une grosse performance. Il n'y a pas un ou deux joueurs qui tirent la couverture à eux, c'est tout pour l'équipe. Alors il arrive que il y a sur certains matchs qu'un joueur passe complètement à travers. Mais bon, ce qui est important, c'est que le groupe soit là et c'est ce qui s'est passé encore hier soir. Que ce soit pendant le match, avant le match ou après le match, on sent qu'il y a une vraie équipe qui s'entend très bien.
Voilà, Patrick Chiron, le président de Cholet, qui était dans le train de retour de Gravelines ce matin. Un mot du l'un peut-être des possibles adversaires de Cholet, Nancy ou l'ASVEL. Peut-être le dénouement ce soir de cette autre demi-finale. Si Nancy s'impose, ce sera direction Bercy face à Cholet. Si c'est l'ASVEL qui s'impose, il y aura un match d'appui le week-end prochain. Jean-Luc, là pour le coup, on a quand même deux grosses formations et malheur au perdant, on a envie de dire. Hein.
Ah ben malheur aux perdants, oui. Et bon courage aux gagnants pour affronter Cholet. Parce que, en effet, la mesure de l'adversaire, c'est-à-dire Gravelines, ça donne aussi la qualité de la victoire. Et je pense que Cholet à ce jour, pour moi, sera le favori de la finale, clairement. Après, entre Nancy et l'ASVEL, je vous avoue que je suis un peu dubitatif. J'ai bien pris note, comme tout le monde sans doute, de la colère à peine rentrée de notre ami Michael Gélabal sur la faillite de son secteur intérieur lors du premier match. Et c'était un peu prévisible aussi, oui. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jefferson a failli ou est-ce qu'il baisse pied parce que justement son ami Pop c'est plus là à côté, quelles possibilités ils ont de rebondir. C'est une équipe pour moi qui aura été une énigme toute la saison. L'ASVEL, absolument toute la saison. Et elle le reste.
Je reste intimement persuadé que Nordine Grip doit se dire la même chose. ça me paraît une évidence. Elle est faite de caractères assez étranges. Matt Walsh, Davon Jefferson, ce sont quand même des personnes très particulières. Je trouve qu'on parle beaucoup en ce moment justement du caractère de Davon Jefferson, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers mois. Plus ses performances montent, plus on a l'impression aussi que la difficulté qu'il y a, difficulté peut-être un mot un peu fort, mais du moins le doute, une forme d'anxiété qu'il y a à le gérer ce caractère ombrageux.
On l'a vu face à Chalon déjà, hein, où il avait un peu bousculé ses coéquipiers, il insultait un petit peu tout le monde.
L'image était hallucinante, tous ses coéquipiers qui essayaient de le calmer et lui qui renvoyait tout le monde. Ça a pas l'air très simple, justement. Je comprends peut-être un petit peu mieux maintenant, en voyant justement ces caractères un peu extrêmes ressortir, ce qui a pu être payé par Vincent Collet au début, parce qu'à la limite, à la fin de saison, tout le monde se regroupe autour d'un objectif. En début de saison, tout le monde joue aussi un peu sa carte personnelle. Or, on voit que c'est quand même des gros égos. Ça aura vraiment été une saison très, très particulière pour l'ASVEL, mais sur son talent, même si effectivement le jeu intérieur, tenir deux matchs d'affilée à nouveau, Tilly fait quand même ses 5 fautes en 20 minutes au premier match, ça va être compliqué. Nancy peut pas être serein. Enfin, Nancy n'est jamais serein déjà.
Laquelle de ces deux équipes est la mieux armée pour défier Cholet ? Est-ce que c'est Nancy ou est-ce que c'est l'ASVEL ? Xavier ?
Il n'y a pas de réponse. C'est deux trucs trop différents.
Le revers de la médaille des caractériels, appelons ça comme ça, qui compose aujourd'hui l'équipe de Villeurbanne, c'est qu'en effet, ils sont capables de tout, y compris du meilleur. Je pense que c'est une équipe qui peut se sublimer si elle arrive en finale après ce qu'elle a traversé. J'ai l'impression que pour Nancy, ça serait peut-être un peu plus business as usual. Et en face de Cholet, est-ce que la capacité de sublimation serait identique ? Pas sûr.
Et d'un autre côté, Nancy a en plus, encore plus en ce moment, peut-être plus de jeux intérieurs, une densité avec 4 joueurs intérieurs, enfin pardon, 3 joueurs intérieurs. Seven Brown n'a jamais joué à l'intérieur, mais au moins
en fait il commence à l'intérieur, mais au bout de 4 secondes sur la possession il sort.
Voilà, donc mais en fait ils ont quand même des rotations à l'intérieur. Bien sûr, je dois rester un petit peu peut-être idéaliser le match aller contre l'ASVEL où les 4 ont vraiment explosé, mais ils auraient peut-être plus de capacité à contrôler le rebond, et on sait que contre Cholet, c'est une clé majeure, puisque Cholet a besoin du rebond pour parfois accélérer son jeu.
Et puis Nancy, c'est quand même la longévité. Hein. Ça serait la 5e finale en 7 ans faut quand même le signaler. On le disait, pour Cholet, c'est assez rare de jouer deux finales de suite. Ils en ont fait quatre.
Bah, ce serait la finale de Dardenne. Il y a eu les finales des Kirksey. Il y a eu la finale de Ricardo Greer. Ce serait la finale de Tremel Dardenne.
Voilà. En tout cas, on aura la réponse donc ce soir. Est-ce que Nancy va rejoindre Cholet dès ce soir avec ce match retour à l'Astrobal, ou est-ce que l'Asvel arrivera à décrocher un match d'appui? Réponse donc dans l'Astrobal ce soir pour ce match 2 de cette deuxième demi-finale.
Carrément basket, l'équipe de France.
L'équipe de France, désormais l'équipe de France féminine qui prépare actuellement son Euro 2011. On rappelle que ça se passera en Pologne le 18 juin prochain. Et pour en parler avec nous, Florence Lepron, l'Aria de Tarbes, est avec nous. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors, comment se passe un petit peu cette préparation? Vous venez de terminer le tournoi dans l'Ain avec trois victoires, dont une assez significative face à la Grèce, même si on sait que les matchs de préparation restent des matchs de préparation. Comment est le groupe aujourd'hui? Comment se sent-il? On sait que c'est encore le début, hein, que vous vous retrouvez, etc. Comment est-ce que vous sentez ce groupe, Florence?
Oui, donc comme vous l'avez dit, c'est le début. Ça fait réellement que 10 jours qu'on travaille ensemble. C'est pas de la langue de bois, on vit très bien, on a de la chance de très bien vivre ensemble, que ça soit dans le travail ou même en dehors, donc on est même plutôt contente de se retrouver. On a très vite démarré sur de bonnes bases et sur les bases sur lesquelles on est depuis 2-3 ans, donc ça va plutôt bien.
Vous avez dit que c'était une équipe de France dont on connaît le groupe aujourd'hui. Pierre-Vincent a défini les 12 joueuses qui participeront à cet Euro 2011, voilà, qui se découvre, on a envie de dire. Hein. C'est un groupe qui, certes,
se redécouvre.
Voilà. C'est la système qui se connaissent déjà, mais d'autres qui se connaissent pas du tout.
On partira.
Oui. Alors, comme vous dites, le problème, c'est qu'il y a 12 filles qui vont à la compétition, et nous, on s'estime plus qu'une équipe de France, on est un groupe France. Donc, il y a des gens qui y sont parfois, d'autres qui en sortent, d'autres qui reviennent. Et c'est vrai que les équipes sont d'une année sur l'autre un petit peu différentes, mais pour nous, ça reste le groupe France. Donc, on a besoin de travailler ensemble, mais on est avant tout un groupe.
Bonjour Flo. J'aimerais que tu sois nos yeux, puisque forcément les images, surtout sur les matchs de préparation, et on sait aussi pour l'équipe féminine, on les voit moins. Moi, je remarquais en regardant les statistiques que, par exemple, sur le premier match, vous gagnez largement, et malgré tout, vous avez plus de balles perdues que de passes décisives, vous n'avez pas trop d'adresse à 3 points, et on voit qu'au fur et à mesure du tournoi, ça s'améliore, ça se renverse. Beaucoup plus de passes décisives, beaucoup moins de balles perdues, beaucoup plus d'adresse. Est-ce que c'est déjà la trace, le signe d'une équipe qui commence à faire moins d'erreurs, qui commence à mieux jouer ensemble, même si c'est que vos trois premiers matchs amicaux?
Oui, et heureusement, parce qu'on a très peu de temps pour se préparer. Et je crois qu'une de nos grandes qualités, c'est grâce à notre staff de faire des progrès très vite, parce que les choses sont très vite mises en valeur, les choses positives comme les choses négatives ou comme les choses à travailler. Donc nous, on essaye de réagir par rapport à ça. Bon, après, évidemment, c'est facile de lire les statistiques comme ça et de voir ce genre de choses, mais de toute façon, c'est une idée importante pour nous, c'est de chaque entraînement, chaque match est important pour avancer et pour progresser.
J'avais une autre question aussi, ce qui me paraissait importante, parce que, et toi tu vas d'autant plus pouvoir en parler, c'est le grand retour d'Edwige Lawson, Wade d'ailleurs, qui joue normalement en backup de Céline, qui a joué un peu, paraît-il, avec elle aussi à certains moments. Toi qui justement est une meneuse arrière, comment ça s'articule? Est-ce que ça va être déjà difficile à articuler, tout simplement parce qu'il y avait des habitudes qu'il va falloir changer? Et est-ce qu'au contraire c'est prometteur?
Non, je pense pas que ça va être plus difficile qu'à d'autres postes, parce que on est, c'est prétentieux de dire ça, mais on travaille dans l'intelligence. Donc notre intérêt, c'est que l'équipe soit meilleure. Et donc Edwige peut apporter des choses que peut-être on n'avait pas auparavant. Il y a suffisamment, c'est quand même des joueuses d'expérience et tout ça, des joueuses qui sont, on joue sur les bases arrières, donc on est censé réfléchir un minimum pour l'équipe. Donc, entre guillemets, c'est des choses dont on a l'habitude, mais qui vont se faire naturellement. On a encore, 5 matchs, plus les entraînements, plus tout le travail à côté. Donc, je pense que ça va être très vite quelque chose de positif.
Florence Lepron, l'arrière de Tarbes, est avec nous ce matin dans Carrément Basket. Jean-Luc, c'est vrai qu'on a envie toujours un petit peu d'être exigeant avec cette équipe de France féminine. Hein.
Bah, comment ne pas être exigeant avec elle, vu ce qu'elle a déjà montré, et comment ne pas être exigeant avec un groupe qui est peut-être le meilleur groupe, enfin en tout cas le groupe qui doit aller sur le podium et peut-être sur la plus haute marche. On ne peut pas imaginer cette équipe de France entrer dans l'Euro pour jouer les seconds rôles. Alors par rapport, pour rebondir à tout ce qui a été dit,
il y a de la pression
avant,
là, Florence, hein.
Comment ?
Il y a de la pression là, hein, de la part de Jean-Luc.
Ouais,
hein.
Mais c'est pas de la pression.
Elles le savent elles-mêmes qu'elles ont leur qualité. C'était la question que je voulais poser à Florence.
Non, on a beaucoup de qualité, mais c'est quand même très difficile, vous savez.
Non, je n'ai pas dit que c'était facile, Florence. J'ai pas prétendu ça, mais lorsqu'on voit que vous jouez trois matchs, que comme d'habitude, Pierre Vincent prend énormément soin de faire fonctionner ses rotations, lorsqu'il n'y a quasiment pas une fille au-dessus de 20 minutes de jeu sur les trois premiers matchs et que néanmoins très vite vous reprenez vos marques très vite, si j'en crois ce qu'il a dit lui-même sur une petite vidéo qui est sur le site de la fédération, tout de suite il a pointé les progrès qui avaient été faits, il a pointé aussi les faiblesses, le manque d'adaptabilité notamment à ce que propose la joueuse adverse. Il vous a reproché, si j'ai bien compris, pas à vous en particulier mais à l'équipe, de laisser une fille vous piéger deux trois fois de suite de la même façon. Il dit ça c'est inadmissible, mais néanmoins puisqu'il y a un groupe France et c'est clair qu'il existe un groupe France et qu'il est très cohérent déjà, on est tenté de vous dire vous entrez dans l'Euro avec de l'ambition et peut-être que le vrai danger pour l'équipe de France c'est précisément ça, c'est d'éviter à un moment d'être trop, j'allais dire trop consciente de vos forces.
France.
Oui, bon, sincèrement, on peut jamais savoir, mais je crois que c'est là toute notre première qualité, c'est que jamais on va rentrer dans cette compétition en pensant par exemple aux matchs qui suivent, alors qu'on en a déjà trois qui sont très importants. Vous savez, nous sur chaque match, hein, quand on joue contre Israël, contre la Grèce, contre la Belgique, on n'arrive pas en sachant et en pensant qu'on va gagner. On est là, entre nous, on dit oh là là, ça va être compliqué parce qu'elle propose des choses sur lesquelles on n'est pas forcément très bonne et tout ça. Et ça, il va se passer la même chose contre la Croatie, tout ce premier tour. Donc, entre guillemets, c'est ça qui fait notre force, moi, je crois. C'est qu'on a la petite peur de perdre à chaque fois, qui tourne toujours très bien, parce qu'on, je pense qu'on n'a jamais été... C'est de la pression positive, entre guillemets, et c'est ce qui nous pousse à être meilleurs. Mais jamais on n'aura ce problème-là, je pense. On aura peut-être d'autres problèmes, mais pas celui-ci.
Non, c'est tout à fait vrai. On ne taxera pas l'équipe de France d'aucune arrogance. C'est pas ça le débat. Mais c'est vrai aussi que l'année dernière, vous avez vécu une campagne qui est partie avec un groupe qui était considérablement amoindri, qui a prouvé au fil de la compétition qu'il était capable de se mobiliser autrement, de faire valoir d'autres forces. Et là, vous vous trouvez dans la situation où vous avez et où nous avons l'équipe de France qui était réellement attendue. Et cette équipe de France, là, elle est fatalement consciente de ses forces.
Xavier,
aussi.
Une question pour Florence.
Oui, juste une question à propos de Sandrine Gruda, puisque l'année dernière, elle était venue, elle n'était pas restée, elle était complètement lessivée, hein, tout simplement, parce qu'elle elle enchaînait les compétitions. Je voulais savoir dans comment elle est là, à la fois mentalement, enfin moralement plutôt, et physiquement. Est-ce que tu l'as sentie à fond et bien?
Ah, bah, Sandrine est toujours à fond, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et non, elle est bien. Et je pense que dans l'absolu, c'est quelque chose qui l'a fait mûrir, qui l'a fait apprendre, comme pour tout le monde. Et non, il n'y a aucun problème. On a déjà oublié qu'elle n'était pas là l'été dernier, de manière un petit peu particulière.
Et est-ce qu'elle a encore progressé? Parce que c'est déjà une des meilleures joueuses du monde, mais elle reste jeune. Elle a encore progressé ou pas?
Écoutez, on a fait. Je pense qu'elle est. C'est horrible de dire ça. C'est pas à moi de faire ce genre de commentaire, mais je pense qu'elle a progressé dans le sens où elle.
Attention, tout est enregistré, Florence. Hein.
Je vais prendre un coup. Elle va me tuer. Vous savez qu'en un coup, elle peut me tuer.
Voilà.
C'est ce qui fait sa force.
Pardon. Ouais,
elle a progressé. Je pense qu'une des choses qui est très intéressante, c'est qu'elle est plus ouverte et qu'elle est réellement. Comment dire, concernée par le collectif et tout ça, et donc ça va la rendre encore meilleure.
Et pour vous, c'est fondamental, ça. Ah oui, ça c'est important ce que tu dis, parce que dans l'optique justement de se renouveler en permanence, parce que vous avez déjà gagné un titre européen, si vous pouvez en gagner 12, je pense que vous le ferez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on sait qu'il va y avoir une usure quasi inconsciente, et avoir justement une joueuse leader sur le terrain qui en plus s'ouvre un peu plus, c'est ce qui permet de tenir sur la distance.
Oui, mais c'est un plus. Après, je pense que c'est, et là encore, c'est très prétentieux, c'est le groupe et le staff qui lui a... Vous savez, on est quand même... ça ressemble un petit peu à... C'est pas une secte, le mot est beaucoup trop fort, mais on a quand même une certaine manière de vivre et tout ça. Et je pense qu'il y a, des valeurs auxquelles on croit et que tout le monde est garant de ça. Et je pense que ça la pauvre, elle a vécu dans un chemin très très droit, et là, ça l'a un petit peu ouverte. Il y a des il y a des choses qui vont lui faire, qui vont vraiment réellement lui faire la faire évoluer, et c'est devenu très agréable de travailler avec elle.
Même comme quoi, cette équipe
comme
de
moi qui sont une banalité à pleurer et qu'elle a pas l'habitude de côtoyer.
cette équipe de France oui. gagne même en dehors du terrain.
Exactement, cette équipe de France, on la suivra. Les prochains matchs, ce seront à Prague. Ils seront à Prague face à la République tchèque pour cette équipe de France.
Ça va être de bons tests,
pour
ça,
l'Euro 2011, effectivement, qui débutera en Pologne le 18 juin. Merci beaucoup, Florence Lecron, d'avoir été avec nous ce matin dans Carrément Basket, l'arrière de Tarbes et de l'équipe de France, bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas, d'avoir été avec nous en direct de Roland-Garros. Et merci
un
beaucoup,
grand plaisir, mon
Xavier
cher Fred.
Romani, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Carrément Basket.
Carrément Basket, c'est également à écouter en podcast sur rtl.fr.